plus jamais que ça ne prend de l'écrire devant le travail, sauf à mon épouse, parce que très gentiment, elle me dit « Oui, mon chéri, je te comprends. » Et donc, ça m'aidait bien ces moments, parce qu'il faut s'imaginer de vivre avec un écrivain, enfin, un historien. Il faut l'imaginer surgir dans le salon ou dans la cuisine en disant « J'ai fini le Watergate !» j'ai fini le 11 septembre, j'ai fini la guerre de sécession. C'était un peu ça notre vie pendant plusieurs années. Mais voilà, donc je suis content que le livre soit présent, fait. En plus, je trouve qu'il a de très belles factures. C'est très important, bien sûr, le livre en tant qu'objet. Et j'espère, pour ceux qui le liront, qu'ils prendront du plaisir. Alors, ce que je vous propose ce soir, c'est une conférence sur l'histoire des États-Unis, à la fois son déroulement par période, essayer de synthétiser comment on peut synthétiser l'histoire de ce pays, quels sont les aspects étonnants de cette histoire, et à la fin, vous donner ce que moi je considère les vecteurs de cette histoire, c'est-à-dire les idées forces de cette histoire. Parce que je me suis dit, comment présenter une histoire d'un pays, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire en 50 minutes. Donc, soit c'est une analyse de cette histoire, soit on prend comme exemple un personnage ou une période, ce que je ferai à d'autres moments. Alors, le 3 juillet 1776, dans une lettre adressée à sa femme Abigail, ou Abigail, le bostonien John Adams, un des leaders de la Révolution, écrit: Hier fut décidée la plus grande question jamais débattue en Amérique, et plus grande encore peut-être qu'il ne le fut ni ne le sera jamais parmi les hommes. Une résolution fut adoptée à l'unanimité sans aucune colonie dissidente. Que ces colonies unies sont et de droit doivent être des États libres et indépendants. Il ajoute « Lorsque je regarde en arrière vers l'année 1731, soit le début de la crise avec l'Angleterre, je suis surpris par la soudaineté, tout comme par la grandeur de cette révolution. » Dans une autre lettre, datée du même jour, toujours à sa femme, Abigail, Adams prévoit, je cite, « que le second jour de juillet 1776 sera le moment le plus mémorable dans l'histoire de l'Amérique, et que ce jour, je cite, « sera commémoré avec des défilés, des spectacles, des jeux, du sport, des tirs de canon, des cloches, des feux de joie et des illuminations d'un bout à l'autre de ce continent, de ce moment à tout jamais. » L'histoire conservera plutôt le 4 juillet comme date de naissance des États-Unis et comme jour de fête nationale. Au demeurant, l'enthousiasme de John Adams paraît bien légitime. Lui et ses co-révolutionnaires ont pris l'incroyable risque de défier la toute-puissante Grande-Bretagne, de s'en séparer en déclarant l'indépendance de 13 colonies réparties le long du littoral atlantique nord-américain, de la Géorgie au New Hampshire. Il faut insister sur le caractère inédit, qui n'était pas assuré d'avance, de cette union entre des colonies très différentes d'un point de vue de la géographie, de l'économie, du peuplement et de la religion, et qui n'ont pas toujours, loin de là, été solidaires les unes des autres. À l'inverse, leur histoire jusqu'à la Révolution est parsemée de rivalités entre elles. L'histoire des États-Unis, jusqu'à la guerre de sécession des années 1860, est précisément ce chemin vers une union plus parfaite d'éléments disparates. Il faudra attendre 13 ans avant que ce nouveau pays, reconnu par la France dès 1778 par un traité dit d'amitié et de commerce, gagne, avec l'aide précieuse et indispensable de cette dernière, sa guerre contre les Britanniques en 1783, puis édifie une république avec à sa tête un président élu, George Washington, en 1789. Les États-Unis sont à ce titre une expérience au sens anglais de experiment, c'est-à-dire une expérience républicaine, un saut dans l'inconnu. Et ce point n'est pas à sous-estimer. En 1789, construire une république durable est un défi immense. Beaucoup en Europe lui prédisent un échec. On peut d'ailleurs penser que l'éloignement des États-Unis et son rôle marginal dans les affaires du monde ont pu la préserver dans ses premiers pas. À partir des années 1820, une fois les institutions stabilisées et la guerre de 1812 gagnée par les Américains, cette fois-ci seule contre les Britanniques, s'élabora la mémoire de cette révolution. Et avec le temps, les Américains voueront une vénération sans égale à ceux qui seront collectivement appelés, un siècle plus tard, dans les années 1920, les pères fondateurs, Founding Fathers. Au XIXe siècle, historiens, chroniqueurs et éditorialistes dessinent un destin hors du commun à ce pays qui traverse de profondes mutations sociales, économiques, politiques, démographiques et culturelles. L'historien américain George Bancroft écrit à partir de 1834 son histoire des États-Unis depuis la découverte du continent américain. J'insiste sur le point de départ, la découverte du continent américain. Une grande fresque en 10 tomes, dont le dernier sera publié en 1874. Bancroft célèbre l'expansion territoriale des États-Unis, à ses yeux devenue un continent, la prospérité économique, l'explosion démographique vertigineuse et l'attrait de la technologie. Ainsi note-t-il, de nouveaux États se forment dans les déserts, des canaux traversent les plaines et sur les montagnes s'ouvrent des voies nombreuses au commerce. Les manufactures prospèrent le long de nos cours d'eau. L'emploi de la vapeur sur nos rivières et l'établissement de voies ferrées rapprochent les distances. Notre richesse et notre population nous placent déjà au premier rang des nations. Les États-Unis attirent de nombreux migrants et savent les intégrer par des lois qui promeuvent l'équité et la liberté, d'après Bancroft. Un immense concours des migrants des origines les plus variées couvre continuellement nos côtes et les principes de liberté unissant tous les intérêts par des lois égales changent les discordants en une union harmonieuse. Il s'extase ainsi. Bancroft vante aussi la stabilité des institutions américaines. Je cite, « D'autres gouvernements sont bouleversés par les innovations et les réformes des États voisins. Notre Constitution, fixée dans les affections du peuple qui l'a choisie, neutralise l'influence des principes étrangers et ouvre sans crainte un asile aux hommes vertueux, malheureux ou opprimés des autres nations. » Il conclut, et cependant, il y a à peine 2 siècles que le plus ancien de nos États fut colonisé. Destin foudroyant, s'il en est. Il serait facile et vain de balayer Bancroft et son œuvre sous prétexte que cette histoire est partielle et partiale. Car tout en capturant l'esprit de son temps, il réussit à intégrer dans un même récit les principes cardinaux de l'Amérique, tels qu'ils apparaissent aux élites blanches du moment, à savoir la liberté, l'espace, la diversité, la croissance, l'innovation et la stabilité. Des caractéristiques qui se renforcent les unes les autres dans un élan, un destin hors du commun, la destinée manifeste ou manifest destiny, selon les termes de l'époque, expression qui est apparue dans les années 1840. George Bancroft influence l'écriture du récit national des États-Unis pendant près d'un siècle. Dans les années 1960, cependant, face aux mutations et aux remous que traverse alors la société américaine, une nouvelle génération d'historiens, plus jeunes, plus diversifiés, plus ouvertes et moins élitistes, est née de la professionnalisation du métier, tout comme du formidable développement des universités, transforme profondément et durablement la façon d'écrire l'histoire des États-Unis. D'une part, leurs ouvrages s'intéressent désormais aux oubliés d'un récit national à dominance masculine, blanche et protestante. D'ailleurs, au temps de Bancroft, dès 1852, l'ancien esclave et désormais abolitionniste Frederick Douglass posait d'ailleurs puissamment le problème en demandant, je cite, qu'est-ce que le 4 juillet pour un esclave ? De nombreuses études ont ainsi paru, entre autres, sur les Amérindiens, les Noirs américains, les femmes, les Hispaniques et les très nombreux pauvres, quelles que soient leurs origines et lieux de vie. D'autre part, l'histoire des États-Unis n'est plus vue comme un cheminement linéaire vers un destin grand et unique. L'accent est désormais mis sur les crises et les périodes troubles de l'histoire américaine, ainsi que sur les erreurs commises. De nombreux livres paraissent sur l'esclavage, la ségrégation, la déportation et la destruction des nations amérindiennes, l'impérialisme, la répression coloniale aux Philippines, l'hostilité aux Chinois ou aux Irlandais au cours du XIXe siècle, l'internement des citoyens américains d'origine japonaise dans les années 1940, la guerre du Vietnam, etc. Des études qui, prises dans leur ensemble, donnent l'impression d'une profonde et à bien des égards salutaire, même si parfois excessive, introspection collective. À partir des années 1990, la mondialisation encourage le développement de l'internationalisation de l'écriture de l'histoire des États-Unis. Ce phénomène a eu deux conséquences majeures. D'abord, les historiens américains ont plus facilement comparé leur histoire à celle d'autres pays et ont étudié les multiples interactions des États-Unis avec le monde extérieur. Et ceci même avant la fin du XIXe siècle et dans des schémas de réciprocité, quoique déséquilibrés à l'avantage de l'Amérique. Ensuite, des universitaires non américains ont de plus en plus écrit sur l'histoire des États-Unis, et ce sans que leurs travaux soient totalement ignorés par les historiens américains, comme c'était le cas auparavant. Certes, le double problème de la langue et de la réticence des éditeurs américains à traduire ces études publiées à l'étranger reste un obstacle majeur à une plus grande diffusion de ces dernières aux États-Unis. Néanmoins, de grands pas ont été faits. L'étude et l'écriture de l'histoire américaine sont sorties de leur insularité et ne sont plus exclusivement américaines. Le récit américain et son interprétation s'en sont trouvés modifiés significativement. Ainsi, le regard extérieur et comparatif des historiens américains et l'apport des historiens non américains ont remarquablement mis en lumière le fait que d'autres pays sont nés d'une révolution, d'autres pays ont vécu une guerre civile. D'ailleurs, la guerre de sécession maintenant est comparée au processus d'unification en Italie et en Allemagne au même moment. D'autres pays ont connu une expansion territoriale phénoménale et encore, d'autres pays ont attiré des millions de migrants au XIXe siècle. L'universalité de l'expérience américaine revêt désormais un nouveau visage. Elle n'est plus attribuée, comme au XIXe siècle, exclusivement à une glorieuse destinée qui s'offrirait au monde comme un modèle, mais aussi à la diversité de ses origines et à une histoire qui trouve des échos dans celle d'autres pays et régions du monde. Les États-Unis n'auraient pas ainsi suivi un destin unique, ce que les historiens appellent l'exceptionnalisme américain. Il n'en demeure pas moins que cette histoire, celle de 13 colonies devenant une puissance planétaire en à peine 2 siècles, celle d'un pays exerçant une influence économique, technologique, militaire et surtout linguistique et culturelle phénoménale, reste étonnante, fascinante même, à défaut d'être exceptionnelle. Certes, cette influence, excepté dans le domaine militaire et culturel, est moindre que dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, du fait de l'enrichissement de nombreux pays en Europe de l'Ouest et en Asie notamment. Mais elle reste réelle et profonde, et il importe ainsi de mieux connaître l'histoire de ce pays. La France, elle, peut s'enorgueillir d'une riche historiographie sur les États-Unis, certainement une des plus riches d'Europe continentale, diverse, ancienne, florissante et dynamique. Dès les années 1770, alors que la France participe activement à la naissance du pays, des militaires de retour de campagne publient des journaux de voyage sur ces nouveaux États-Unis d'Amérique, lointains et exotiques. Ils furent suivis par des voyageurs, des diplomates, des écrivains, des réfugiés, des migrants. Vint ensuite, dans les années 1830, la magistrale analyse d'Alexis de Tocqueville, puis les travaux d'Édouard Laboulaye, qui est le promoteur de la Statue de la Liberté, ou encore Henri Doniol à la fin du XIXe siècle. Et cette tradition s'est accentuée dans la première moitié du XXe siècle avec les travaux, par exemple, de Paul Claudel, d'André Mauroy, ou l'ambassadeur Jules Jusserand, ou l'historien René Raymond. Comment résumer cette histoire en moments? J'ai choisi de choisi 5 moments de cette histoire américaine. Les États-Unis naissent au cours d'une révolution, mais les colonies existent alors depuis plus d'un siècle pour les plus anciennes. En fait, les États-Unis puisent leur origine dans les bouleversements liés au voyage transatlantique de Christophe Colomb en 1492. Les États-Unis sont un pays américain, avant d'usurper, pourrait-on dire, les vocables « Amérique » et « Américain » pour les désigner à eux seuls. En 2016, lors de sa visite à Cuba, le président Obama insiste sur ce qui rapproche les deux pays, notamment le fait qu'ils soient deux pays du continent américain, entre guillemets, colonisés par les Européens, entre guillemets encore, bâtis en partie par des esclaves venus d'Afrique, et qui ont accueilli des immigrés, je cite, venus de très loin pour commencer de nouvelles vies aux Amériques. Par ailleurs, le premier symbole des États-Unis est une femme incarnant le Nouveau Monde, Columbia, avant qu'au sortir de la guerre de 1812, l'oncle Sam, à l'origine un personnage réel qui fournissait l'armée américaine en marquant ses produits de ses initiales, US, ne soit choisi comme symbole. Le premier moment de cette histoire, donc, est l'époque dite coloniale. Au XVIe siècle, les Anglais tentent de s'implanter en Caroline du Nord, mais c'est un échec. Au siècle suivant, ils réussissent à s'installer en Virginie et au Massachusetts d'abord, puis dans toute la Nouvelle-Angleterre, au Maryland, aux Carolines et en Pennsylvanie. Mais ils ne sont pas les seuls sur ce littoral. Ils délogent les Néerlandais de New York, contiennent les Français au nord et à l'intérieur du continent et les Espagnols au sud en Floride. Tout au long du XVIIIe siècle, les colonies britanniques d'Amérique du Nord, du New Hampshire tout au nord à la Géorgie, au plus au sud, prospèrent économiquement et attirent des dizaines de milliers de colons de toute l'Europe. Ils importent aussi des dizaines de milliers d'esclaves d'Afrique. Ils s'isolent aussi petit à petit de l'espace continental, appelé le pays indien, Indian Country, et y repoussent les Amérindiens qui ont survécu au traumatisme de la conquête. Le second moment consiste en la Révolution et la naissance des États-Unis. Entre 1754 et 1789, l'histoire s'accélère soudainement et prend un tour tout à fait imprévisible. Alors que les Américains et les Britanniques défont assez largement les Français lors de la guerre de 7 ans, les colons vont, à partir de 1763, protester contre de nouveaux impôts, puis souhaiter négocier une nouvelle relation avec la métropole qui tiendrait compte de l'autonomie qu'ils ont acquise, estime-t-il de facto au fil des décennies. Devant le refus catégorique de Londres, l'Amérique s'embrase. C'est la guerre d'indépendance, ou comme on dit en France, la guerre d'Amérique. Avec l'aide de Versailles, qui signe un traité, comme on l'a vu, en 1778, y envoie un contingent de 5000 hommes en 1780. Commandé par la fine fleur de la noblesse de France, les Américains obtiennent leur indépendance en 1783. Ils adoptent une constitution en 1787 et élisent un congrès et un président. Dès 1789, l'Amérique est en marche. Le troisième moment, communément appelé antebellum ou avant-guerre, nous mène à la guerre de sécession, soit pendant les deux premiers tiers du XIXe siècle. Les Américains s'affairent. Ils consolident leur vie démocratique, lancent des réformes sociétales ambitieuses, construisent des routes, des canaux et enfin des chemins de fer et des lignes de télégraphe. Puis ils explorent, cartographient, conquièrent, annexent et peuplent l'Ouest. Mais une tension entre les États esclavagistes et les États libres se crée progressivement et paraît insoluble au milieu du XIXe siècle. En 1860, les États-Unis affrontent la plus grave crise de leur histoire. 11 États du Sud proclament la sécession et se séparent du reste du pays. Un conflit de 4 ans s'engage alors entre la Confédération, le Sud, et l'Union, le Nord, avec des pertes effroyables, plus de 600 000 morts à la fin de la guerre. Une figure majeure de l'histoire américaine s'impose sur la scène, Abraham Lincoln. Celui-ci parviendra à vaincre le Sud et à rétablir l'union entre tous les États américains. Mais la guerre fut aussi une guerre de libération, ou comme on dit parfois, une guerre d'abolition. Des millions d'esclaves sont libérés par les troupes de l'Union. L'esclavage est aboli au sortir du conflit en 1865. Le quatrième moment nous porte des années 1870 à la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qu'on appelle la naissance de l'Amérique industrielle et urbaine. Le Nord, qui s'identifie aux usines, aux chemins de fer, aux grandes villes avec des milliers d'immigrants, à la finance, à la consommation, au progrès technologique, à l'éthique du travail, au culte de l'effort, et de l'argent, devient l'Amérique. Le Sud, lui, s'enferme dans la ségrégation, qui repose tragiquement sur l'illusion d'une paix durable en séparant les Blancs des Noirs. L'Amérique laisse faire, les affranchis sont abandonnés par Washington. Le Sud restera une région à part jusqu'aux années 1960. À la toute fin du XIXe siècle, se produisent deux événements majeurs liés entre eux. La guerre contre l'Espagne, en 1898, projette les États-Unis dans une aventure impériale qui prend le relais de leur expansion territoriale continentale. Par ailleurs, c'est la seconde chose, la zone appelée frontière ou frontier, qui avait toujours existé depuis l'époque coloniale, poussant les colons puis les Américains toujours plus avant vers l'ouest, est déclarée close, fermée. La nouvelle n'annonce pas que le continent soit entièrement peuplé par les Euro-Américains, tant s'en faut, mais que le processus de poussée vers le Pacifique, dans un mouvement continu, a pris fin. La nouvelle frontière, en cette fin du XIXe siècle, pour reprendre une formule de John Kennedy en 1960, est l'Empire et l'acceptation, même si difficile et ponctuée de retrait, d'un rôle et d'une influence qui deviendra planétaire. L'engagement américain dans la Grande Guerre, à partir de 1917, consacre la prospérité américaine et cette nouvelle influence. Le krach de 1929 met brutalement fin à cette prospérité qui semblait éternelle et surgit alors une autre figure politique incontournable, Franklin Delano Roosevelt. Celui-ci, avec l'aide des New Dealers, sauve les États-Unis du chaos, construit une Amérique plus solidaire, plus humaine et engage, après l'attaque japonaise de Pearl Harbor, victorieusement le pays dans le plus grand conflit extérieur de son histoire. La Seconde Guerre mondiale consacre la puissance des États-Unis qui se battent sur deux fronts, Atlantique et Pacifique, avec des moyens inconnus jusqu'alors. À l'été 1945, Hiroshima et Nagasaki montrent cependant que les États-Unis ont franchi une ligne entre le progrès technologique et l'humanité. Le cinquième moment naît en 1945. C'est l'Amérique surpuissante, à l'influence économique, militaire et surtout culturelle incomparable et planétaire. L'American way of life, avec la maison, la voiture, le cinéma, la télévision, la passion pour la consommation, le confort et la technologie, l'ennui parfois même, se construit et s'impose au fil des décennies et à des rythmes différents dans le monde, par l'imitation, le désir et même paradoxalement, par le refus d'y adhérer. Tout en consommant, l'Amérique, elle, connaît de très profondes mutations dans les années 1960, puis à nouveau 30 ans plus tard. L'Amérique des droits apparaît. Les droits civiques sont enfin restaurés aux Africains-Américains avec la fin de la ségrégation. Les femmes, les jeunes, ce qu'on appelle « youth culture », les Hispaniques, les homosexuels, étendent les leurs ou en acquièrent de nouveaux. Dans les années 1960 et 1970, l'Amérique traverse toute une série de crises. La guerre du Vietnam, la révolte des campus, la banqueroute des métropoles, source de pauvreté et de violence urbaine, le Watergate, puis la crise de l'énergie sous Ford et Carter. En une décennie, le pays remonte la pente. Et avec la fin du communisme et l'écroulement de l'Union soviétique, celui-ci retrouve une influence et une position unique sur l'échiquier mondial qu'il n'avait connu que quelques années au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en fait entre 1945 et 1949. Depuis, et avant tout le monde, l'Amérique est entrée dans l'ère de la mondialisation. Le pays a accentué sa diversité démographique, son influence économique, politique, technologique, culturelle et sa prépondérance militaire. Les attentats du 11 septembre 2001, cependant, ont montré que cette influence peut faire face à une hostilité dévastatrice et que l'Amérique, toute puissante qu'elle est, reste vulnérable. Mais les États-Unis ont surmonté cette terrible épreuve et ont repris leur chemin. En 2008, l'élection de Barack Obama, un candidat dépeint comme atypique, mais qui pourtant ressemble tellement à l'Amérique dans la multiplicité de ses origines, a permis de réconcilier le monde avec les États-Unis et vice-versa. Mais le jeu continuel des élections ont amené un nouveau visage à la Maison-Blanche en 2016. Mais il importe de se garder de trop identifier l'Amérique à une personne seule. L'Amérique est un pays-continent très difficile à saisir dans sa diversité. Quels sont les vecteurs clés de cette histoire complexe? Le socle de traits fondamentaux de l'histoire, de la géographie et de la culture des États-Unis est à chercher dans les profondeurs de leur passé. Ces caractéristiques qui apparaissent dès la période coloniale sont les vecteurs de cet ouvrage, à savoir l'espace, la croissance, la diversité, l'inventivité et la violence. Notons tout d'abord l'espace. Dès le moment de la Révolution, les 13 colonies nouvellement indépendantes couvrent un grand espace littoral. Comment une république peut-elle gouverner un si grand territoire, se demande-t-on, en Europe? De plus, les États-Unis d'alors font face à un continent encore mal connu mais dont ils soupçonnent l'immensité. Tout au long du XIXe siècle, les Américains explorent, conquièrent, peuplent, maîtrisent par la technologie du rail, du télégraphe et des armes à feu cette immensité continentale. C'est leur première conquête spatiale. Cette expansion territoriale se nourrit et entretient une croissance, notamment et surtout démographique, mais aussi économique, phénoménale, qui perdurera avec des hauts et des bas tout au long de l'histoire du pays. L'Amérique attire des millions d'émigrants. Cette forte, quoique fluctuante à travers les époques, immigration, perpétue et accentue une extraordinaire diversité qui, gardons-le à l'esprit, fut de tout temps une caractéristique de l'Amérique britannique et des premiers États-Unis. En incorporant des territoires d'abord continentaux, puis iliens par l'expansion impériale et ultramarine à la fin du XIXe siècle, les États-Unis absorbent aussi des populations différentes du socle de départ et intègrent leurs histoires et leurs héritages dans le récit national. Ainsi, les États-Unis naissent de l'Amérique britannique, mais leur expansion territoriale fait que leur histoire s'enracine désormais dans d'autres passés régionaux et culturels. D'où l'extrême importance, depuis le tout début, des spécificités des colonies puis des États. Les États-Unis, malgré un fort vernis unificateur et uniformisant, restent une somme d'histoires, un kaléidoscope de traditions et de particularismes identitaires liés au peuplement et à la géographie. Si la diversité la plus frappante est ethnique, celle des territoires reste fondamentale. L'inventivité, fruit d'une passion pour la technologie et la nouveauté, demeure une autre caractéristique constitutive des États-Unis et du peuple américain. Dès la fin du XVIIIe siècle, l'Amérique est, comme nous l'avons vu, une expérience, un experiment, incarné par la Constitution novatrice de 1787 et des personnages comme Benjamin Franklin ou Thomas Jefferson. Tout au long de leur histoire, les États-Unis ne cesseront d'inventer et d'expérimenter. Enfin, mais d'une manière essentielle, ce schéma d'expansion territoriale, économique, technologique a toujours été concomitant d'une grande violence. Violence des guerres, notamment contre les Amérindiens, des conquêtes, de la spoliation, de la déportation, mais aussi des maladies et des éléments naturels, et bien sûr de l'esclavage, de la ségrégation, tout comme de la criminalité, de la peine de mort, de l'incarcération de masse et enfin la violence de la pauvreté. L'Amérique a toujours présenté un double visage. Celui du rêve de richesse, l'Eldorado des premiers temps, le nouveau monde de l'espoir, de l'opportunité du recommencement et d'une certaine liberté, mais aussi celui de la brutalité de la conquête, de la dureté de l'exploitation d'une main-d'œuvre massive et sans cesse renouvelée, et d'une concurrence impitoyable et effrénée, et d'inégalité toujours plus grande. Pour conclure, la prémisse de cet ouvrage est que l'histoire des États-Unis et de la société américaine n'est qu'imparfaitement connue du public français et au-delà francophone, notamment dans sa complexité. Le livre est écrit dans un cadre chronologique, comme le veut l'exercice, articulé autour d'événements majeurs, mais l'approche, qui a été privilégiée dans cet ouvrage est socioculturelle, même si tous les aspects de cette histoire sont étudiés. Donc ce livre offre un panorama des États-Unis à travers le temps, émaillé de gros plans sur la société américaine à telle ou telle période et de vignettes biographiques de personnages connus de tous ou méconnus ou inconnus. Ainsi, l'histoire des États-Unis est analysée dans son contexte global et non comme isolée du monde, suivant un destin particulier. Je vous remercie.
Merci Bertrand de nous rappeler que les États-Unis sont souvent mal connus. des Français. On pense en connaître beaucoup, on entend beaucoup d'informations sur cette nation, mais finalement, en lisant ce premier ouvrage, je pense aussi qu'en lisant le second, je découvrirai la même chose. Je me rends compte que plus j'avance et moins je connais ce pays où j'ai
moi aussi, donc je te rassure.
Voilà, donc on est... D'accord, tu me rassures. Ceci dit, c'est vrai que tu insistes sur la diversité. Je pense que c'est un des aspects qu'on oublie souvent. D'ailleurs, le nom, hein, même États-Unis, nous fait oublier cette diversité, à propos d'ailleurs. Hein. Et puis nous fait oublier aussi qu'il y a eu, un pays, des nations indiennes avant, hein, la colonisation anglaise. Quand tu parles des historiens... Alors, j'engage tout de suite le moment de question, mais quand tu évoques ces historiens d'autres pays qui, à partir des années 90, sont introduits dans la compréhension de l'histoire américaine, de l'histoire des États-Unis par les historiens américains eux-mêmes, est-ce que certains historiens ressortent particulièrement? Est-ce qu'il y a des pays qui ressortent plus que d'autres? Est-ce qu'il y a une historiographie européenne qui apporte plus aux États-Unis qu'une historiographie latino-américaine? Est-ce qu'il existe une historiographie africaine sur les États-Unis? Je ne pense pas. Enfin voilà, qui a le plus d'apport sur, on pourrait dire, le regard réflexif, hein, des Américains?
Alors, il existe un prix. Alors, il y a une association qui regroupe les historiens américains, qui s'appelle Organization of American Historians, OAH, qui a un prix spécifique pour le meilleur livre d'histoire des États-Unis en langue étrangère, donc d'ailleurs non anglaise. Bon, ça exclut les Britanniques, les Irlandais, les Australiens, malheureusement. Mais bon, c'est parce que c'est la langue plus que la nationalité. Mais ça, quand même, c'est tous les pays où on ne parle pas en anglais comme langue maternelle. Et je parle de ce prix parce qu'il est très souvent remporté par des Français. Alors, petite note tout de suite, ça ne veut pas dire que nous sommes les meilleurs. C'est aussi lié au fait que nous publions en français. Alors que beaucoup d'Allemands publient en anglais. Et il y a d'autres pays ailleurs dans le monde où ils préfèrent publier directement. Aux Pays-Bas, par exemple, ils publient directement en anglais. Donc on est aussi avantagé parce qu'on a tendance à publier dans notre langue. Mais quand même, c'est à souligner... moi j'ai un collègue à Paris 8 qui l'a obtenu, je connais deux personnes autour de moi parmi les américanistes de ma génération qui l'ont obtenu. Donc alors je dirais, bon, à mes yeux en Europe, si on exclut la Grande-Bretagne, enfin le UK, hein, le Royaume-Uni, la France se situe comme un des pays qui étudie le plus les États-Unis, avec l'Allemagne peut-être, mais certainement la France serions en très bonne position. Alors vous savez qu'il y a eu ce livre, vous savez qu'il y a eu ce livre écrit, publié il y a une dizaine d'années peut-être, L'ennemi américain, qui racontait l'histoire de l'anti-américanisme en France. Mais moi, je me situe dans une autre perspective. En fait, je pense qu'à l'inverse, alors bien sûr, l'anti-américanisme existe, et l'Amérique, si on pouvait appeler l'américanisme ou le pro-américanisme, existe aussi, mais il y a des hauts et des bas pour moi. Et je pense que fondamentalement, la France est un des pays, enfin, de ceux que je connais, où on parle le plus des États-Unis et on écrit le plus des États-Unis, on est vraiment presque passionné, hein, même quand certains rejettent le pays, c'est quand même parler de ce pays, c'est quand même qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays européens. Et à mon avis, on a une historiographie qui est très riche et on est très intéressé par les États-Unis. Et je pense que les racines de cet intérêt sont dans sont à trouver dans la révolution, dans nos révolutions. Ce lien mais je dirais aussi le Japon. Le Japon publie beaucoup de travaux sur les États-Unis. Japon, Allemagne, Pays-Bas, Australie. Il y a des historiens australiens qui sont très forts sur les États-Unis. Donc on n'est pas les seuls,
des historiens américains, ceux qui apportent le plus à leur propre histoire, qui renouvellent les approches historiographiques, et ainsi de suite, ce sont... quand même les Anglais.
Voilà, c'est surtout les Anglais.
C'est surtout les Anglais, quand même.
Australiens aussi. D'accord. Ils restent quand même. Parce qu'ils les lisent directement, alors que les ouvrages français. Alors, bien sûr, ceux qui sont primés, ils sont lus par un comité où il y a 2-3 personnes qui lisent le français pour qu'ils puissent juger de la qualité de l'ouvrage. Mais après, il faut qu'ils soient traduits pour qu'ils puissent atteindre un plus large public. Alors qu'avec les livres publiés en langue anglaise, C'est différent, bien
sûr. Le français était... Il y avait des études quand même françaises, des sections françaises aux États-Unis, dans les universités américaines. Est-ce que ces sections-là sont en décroissance? Est-ce qu'elles se maintiennent? Est-ce que l'usage même du français est en recul aux États-Unis, ou est-ce qu'il se maintient?
Non, tout à fait en recul. Mais là, quand je parle du microcosme des universitaires,
oui, hein,
des historiens, tout ça. Bon, le public ne lirait jamais un livre en français, bien sûr. Je ne sais même pas s'il lirait un livre écrit par un français, même traduit en anglais. Parce qu'il faut quand même insister sur le fait que les Américains produisent énormément sur leur histoire. Et ont tendance à se citer et à se lire les uns les autres. Il y a quand même une méconnaissance des mondes universitaires en dehors du leur, c'est sûr. Oui. Et j'imagine mal quelqu'un du Sud, par exemple, lire une histoire de la guerre de sécession par un Français. Il serait oh. Déjà, moi, j'étudiais les Huguenots quand j'étais en Caroline du Sud. Et on me disait, c'est étrange pour un Français d'étudier la Caroline du Sud. Et pourtant, j'étudiais des migrants français, donc ça pouvait avoir du sens. Non. C'est quand même, je parle d'un petit milieu d'universitaires qui s'intéresse à ce que font les autres. D'ailleurs, de toute façon, les Américains, on dit toujours, ils détestent la politique et ils détestent l'histoire. Il y a même des livres qui ont été écrits ici. Why Americans Hate Politics, Why Americans Hate History. Donc, c'est à mon avis, c'est à nuancer, parce que je pense qu'ils aiment beaucoup l'histoire locale. Ils aiment bien l'histoire des patriotes, des pères fondateurs. Tout d'un coup, il y a une certaine histoire qu'ils aiment beaucoup. Donc je pense qu'on a tort de dire que les Américains ne sont pas intéressés par l'histoire. Ils ne pensent qu'au futur, qu'à la technologie. Pour moi, non. Mais c'est vrai que en France, on a quand même la chance d'avoir un lectorat pour les livres d'histoire qui est beaucoup bien moindre aux États-Unis.
Est-ce que vous avez des questions? Oui.
Une question, de savoir ce que vous pensez de la, un peu, puisqu'on est dans l'historiographie, d'un ouvrage qui reprend l'histoire populaire des États-Unis de Ward Zinn. Et quelle est la place, justement, et là je donne une question plus sur le fond, dans la Révolution américaine, quelle est la place du peuple par rapport à ses élites? Et est-ce que la Révolution américaine est simplement une guerre d'indépendance, ou est-ce qu'elle a transformé les structures sociales de l'Amérique à ce moment-là?
Très intéressant, merci pour cette question. Alors, Howard Zinn, moi j'aime beaucoup, je l'ai beaucoup utilisé, enfin lu, mais il faut bien savoir que, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Howard Zinn, c'était un historien militant, engagé, très à gauche, pacifiste, qui a écrit une histoire du peuple américain, mais je pense qu'elle est sans doute plus lue en France qu'aux États-Unis. Parce que son livre, en fait, est fascinant, mais il présente, c'est comme voir l'histoire des États-Unis par la petite lorgnette, c'est-à-dire par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire voir l'histoire des États-Unis par les crises syndicales les mouvements de jeunesse contre la guerre du Vietnam, par exemple. Ça, c'est des choses très importantes. Et moi, j'ai adoré son livre parce qu'il a des citations qu'on a nulle part ailleurs. Ou voir l'histoire des années 1910 à travers l'histoire du Parti socialiste, enfin, en fait, communiste américain. Donc, c'est 100 000 personnes sur 100 millions. Donc c'est rafraîchissant, c'était nouveau, parce qu'effectivement ça fait une demi-ligne dans les livres d'histoire des autres, donc moi j'ai adoré ça, mais il est vraiment à la marge, et il doit, à mon avis, il est lu et étudié dans les universités très à gauche aux États-Unis, je dirais Berkeley par exemple, il y en a quelques-unes, Berkeley, Brown dans Rhode Island, c'est des universités très engagées. Howard aussi, qui est l'université afro-américaine, où on doit le lire, mais il reste marginal, mais c'est un personnage fascinant, et moi je dirais qu'il est à lire certainement, mais pas uniquement, je dirais jamais lisez cette histoire, seulement cette histoire, parce qu'on aurait une vue très partielle de l'histoire américaine, mais elle est à lire, bien sûr. Alors l'autre question, les pères fondateurs se méfiaient du peuple. Pour eux, c'est très important dans leurs écrits. Ils avaient même un terme un peu négatif. On disait mob, M-O-B, qui est un peu la foule en colère. Et on disait le mobocracy, c'est-à-dire le peuple qui gouvernerait. D'où le fait, moi j'explique toujours à mes étudiants, ne soyez pas surpris qu'en 2016, finalement, le candidat qui a gagné avait en fait perdu. Il a gagné grâce aux États. Et d'ailleurs, j'explique dans mon livre, parce que nous, ça nous choque, parce que tiens, c'est marrant, il y avait 3 millions d'écart entre la dame et le monsieur, et c'est le monsieur qui a gagné, soit. Mais si vous habitez le Wyoming, ou le Montana, ou le Delaware, qui n'ont que 3 grands électeurs, et s'ils n'avaient pas ce système de grands électeurs, de collège électoral, si c'était simplement le vote populaire qui comptait, ça serait toujours la Californie, le Texas, la Pennsylvanie, la Floride qui gagneraient, parce qu'en fait... ce qui s'est passé, je digresse, mais ce qui s'est passé, c'est que Hillary Clinton a gagné beaucoup de voix en Californie. Sa réserve de voix était dans un état comme la Californie. Et donc finalement, si vous avez une voix de plus ou 500 000 de plus que votre adversaire, une fois que vous avez gagné l'état, c'est fini. Alors que Trump, lui, il a gagné des états qui n'avaient que 3 ou 4 ou 10 grands électeurs un peu répartis dans tous les États-Unis.
Et finalement, oui, tu peux expliquer un peu cette histoire de grands électeurs, parce que je pense que pour certains,
c'est peut-être obscur. Alors je reviendrai là-dessus, mais pour revenir à votre question, il y avait un mépris pour le peuple. Et je pensais aux grands électeurs exprès pour ça, parce que les États-Unis ne sont pas... La République américaine n'est pas une démocratie au XVIIIe siècle. Elle ne s'est pas construite sur le fait qu'un président soit élu par le peuple. D'ailleurs, aussi les sénateurs n'étaient pas élus par le peuple à cette époque. Ils étaient désignés par les États. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est... Alors, pourquoi je parle des grands électeurs? Parce que, dès le début, la construction des élections, c'était... a toujours mis en balance les États et le peuple, en fait. Et pendant toute l'histoire des États-Unis jusqu'à début du XXe siècle, c'est les États qui comptaient le plus. Les sénateurs ne sont élus par les habitants, par les Américains, que depuis le début du XXe siècle. Comme je disais, avant, ils étaient désignés par les États. Donc, alors, il y a un ouvrage qui pourrait vous intéresser qui s'appelle « Les oubliés de la Révolution américaine », qui a été publié dans les années 80. Un ouvrage français, un ouvrage collectif, « Les oubliés de la Révolution américaine ». Alors, ce que je voulais dire aussi sur la Révolution américaine, c'est qu'on oublie toujours, et ça j'insiste dans mon livre, que c'est une guerre civile, en fait. C'est une double guerre civile. C'est une guerre civile entre Américains et Britanniques, et c'est une guerre civile entre patriotes, qui sont pour la Révolution, et loyalistes, qui sont pour la couronne. Et vous avez des États comme New York ou la Caroline du Sud où il y a même un affrontement en fait entre colons. Franklin disait, il plaisantait à ce sujet, il disait il y a un tiers qui est pour la révolution, enfin pour l'indépendance, un tiers qui est contre et un tiers qui s'en moque. Parce qu'en fait, il faut aussi garder à l'esprit que nous on est passionnés par ces batailles, par ces débats politiques. La construction d'un pays, bien sûr, c'est fascinant. Mais en même temps, il y avait beaucoup de... D'ailleurs, il y avait une immigration, même pendant le conflit. Dans les années 1770, il y a encore des Britanniques et des Européens qui s'installent en Amérique. Et il y avait aussi des colons dans des zones où il n'y avait pas de combat, qui n'étaient pas du tout intéressés par ce qui se passait à ce moment-là. Donc, mais je pense qu'il ne faut pas oublier cette dimension de guerre civile aussi, pour la révolution américaine.
Il y a d'autres questions.
Est-ce qu'on peut dire que les États-Unis sont les enfants de la Révolution française?
Alors, j'ai quelque chose d'amusant à ce sujet. C'est, moi, j'ai enseigné aux États-Unis dans les années 90, pendant 6 ans, à l'université de Charleston, où j'étais. Et je regarde, donc j'avais des manuels américains. Et je regardais le chapitre sur la Révolution. Vous voyez, une demi-phrase sur l'aide de la France. Bon. Ça paraît incroyable, parce que dans un livre français sur la Révolution américaine, il y aurait plusieurs pages pour expliquer combien ils nous doivent beaucoup. Et en fait, c'était parce que... Et j'ai regardé, alors j'étais très curieux, donc j'ai regardé des manuels d'une autre époque, où là, il y avait beaucoup, dans les années 70, où il y avait beaucoup plus de choses sur l'apport de la France, ou des livres des années 20, ou alors là, il y en avait encore plus. Et je me suis aperçu qu'en fait, dans les années 90, où j'étais aux États-Unis, où les États-Unis étaient dominés le monde, c'est la chute de l'Union soviétique, donc c'est le moment unipolaire, comme on dit, là, on réduisait, donc au fur et à mesure, enfin, selon le rôle international de l'Amérique, l'aide de la France était diminuée, en fait, parce que finalement, pour eux, ils étaient tellement puissants que ce n'est pas possible que la petite France... et puis les aider à devenir un pays. Alors, ça, je dis ça pour vous dire que c'est vraiment une question de point de vue. En France, on ne tiendrait pas du tout ce discours. Alors si on équilibre ces deux visions, je dirais que... Alors en fait, je me suis souvent posé la question, et je l'ai même posé à des collègues américains, qui, sans l'aide de la France, que se serait-il passé en fait ? C'est amusant de poser cette question. Parce que ça nous donne la réponse à votre question, si on se pose la question. Et on est tous d'accord pour dire que finalement, ils auraient obtenu leur indépendance. Ils auraient sans doute, la guerre se serait éternisée, mais l'Angleterre n'aurait jamais pu contrôler à nouveau les colonies comme elle le faisait avant le début de la crise. Et finalement, ils auraient certainement négocié, probablement, une séparation, je sais pas, 10 ans, 10, 15 ans plus tard. Alors, revenons à ce qui s'est passé. Je pense qu'il est clair, on ne peut pas dire que les États-Unis sont les enfants de la France, parce que ça serait exagéré, mais c'est évident qu'en 1778, les Américains n'ont aucun allié, l'Espagne n'est pas engagée encore, elle le sera une fois que la France le sera, les Pays-Bas ne le sont pas non plus. Ils sont face à la Grande-Bretagne, qui a 35 000 hommes, c'est énorme. La France n'enverra que 5 000 hommes, les Américains ont entre 5 et 10 000 hommes, disons que ça fait 15 000. La Grande-Bretagne a 35 000, ils occupent tous les ports, ils peuvent faire la guerre partout. Donc il est évident, en plus les Américains n'ont pas de marine, ils ont quelques corsaires, mais ils n'ont pas de marine. Donc,
il y a la flotte française.
La flotte française a été déterminante. Donc je dirais que l'aide française, bien sûr, a été indispensable, déterminante, et arrivée à point nommé, en fait, est arrivée à un moment où les Américains étaient bien...
Ils s'épuisaient, quand même.
Bien mal en point. Mais, il faut pas, en France, on a tendance un peu à sous-estimer l'aide des autres pays. Les Pays-Bas ont donné beaucoup d'argent, ont prêté beaucoup d'argent aux Américains pour qu'ils puissent acheter des uniformes, des armes, des chaussures, etc. L'Espagne a aidé quand même aussi en attaquant l'Angleterre ailleurs sur d'autres. Donc la France était déterminante, mais elle n'était pas toute seule. On a tendance un peu à éclipser les autres pays, mais qui sont aussi engagés dans la cause américaine.
Mais ils n'ont pas été très reconnaissants envers Louis XVI.
Alors oui et non, parce que je pense qu'effectivement ils n'ont pas été très. Alors je pense qu'ils n'ont pas été très reconnaissants vis-à-vis de la France plus tard, mais c'est parce que les liens culturels entre les Anglais, comme disaient les Américains, les Anglais d'Angleterre, les Anglais d'Amérique au début, comme on pouvait pas dire les Américains en 1760, on ne pouvait pas dire les Américains, c'est les Indiens. Et ce qu'on appelle les naturels américains au 18e, c'est les Indiens. Donc ils ne pouvaient pas dire les Américains, donc ils disaient les Anglais d'Angleterre et les Anglais d'Amérique. Donc, votre question c'était ? Oui, la reconnaissance, oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut nuancer, parce que les liens entre l'Angleterre et l'Amérique étaient très profonds, tout naturellement. Et donc, au sortir de la Révolution, ces liens se sont reformés, par le biais du commerce, notamment, très vite. Et ils sont redevenus très forts. Alors, les Français, alors entre-temps, enfin, très vite, il y a eu la Révolution, mais peu importe, les Français étaient très déçus, en fait, parce qu'ils pensaient avoir un accès exclusif au marché américain. Et ils pensaient mériter, du fait de leur investissement militaire et humain dans la cause américaine, qu'en échange, ils pourraient avoir des liens commerciaux très forts avec l'Amérique, et ça ne s'est pas produit. En plus, les Américains ont signé une paix séparée avec l'Angleterre, alors que dans le traité de 1778, la France avait bien dit... Nous ne prendrons aucun territoire, mais vous n'aurez pas le droit de faire une place à Paris. Donc effectivement, ils se sont rabibochés avec les Anglais très rapidement sur notre dos. Mais je pense que quelqu'un comme Vergennes, qui est donc le ministre Louis XVI, qui a poussé la France dans cette guerre, n'était pas dupe. Et je pense que, et même la plupart, je pense que l'élite française savait que les liens entre les Anglais et les Américains étaient très forts. Peu importe. C'est vrai qu'ils n'ont, si on voit leur attitude, la paix séparée, le fait qu'ils n'ont pas respecté les termes du traité de 1718, c'est un peu de l'irreconnaissance. Mais pas vis-à-vis de Louis XVI, parce que pendant la Révolution, les Américains en 1793, lorsque Louis XVI est guillotiné, sont tristes, déçus, tristes, et c'est à ce moment-là qu'ils se séparent de la cause révolutionnaire française, qui dit que la révolution est devenue trop violente, ce n'est plus la même que la nôtre. Parce qu'au début, ils pensaient que la révolution française était inspirée par la leur, mais donc ils ont toujours eu un lien très fort avec Louis XVI. D'ailleurs, même à tel point que ça nous surprend, parce que nous, on voit un peu Louis XVI comme un roi peu efficace, pour être sympathique, et alors qu'eux, non. Ils aiment, et même les historiens américains de nos jours pensent que Louis XVI, par exemple, au XVIIIe, on comptait sur Louis XVI pour abolir la traite négrière, par exemple. Donc, ils plaçaient beaucoup d'espoir en Louis XVI. Ils le voyaient qu'un peu comme leur bienfaiteur.
D'autres questions ? Oui ?
D'autres questions ? Est-ce qu'on peut dire que les Lumières françaises ont eu une influence sur les mentalités américaines et sur notamment le processus, du coup, le processus révolutionnaire américain ?
Alors, il y a très certainement... Pardon, c'est moi, excusez-moi. Très certainement, quelqu'un comme Jefferson, qui a vécu en France... Il était ministre, il a représenté les États-Unis en France dans les années 1780, il était francophile, très influencé par... il fréquentait, comme Franklin, il a fréquenté les salons parisiens où on discutait philosophie. Quelqu'un comme Montesquieu a influencé les constituants américains, mais, encore une fois, en France, on a tendance un peu à exagérer l'influence de la France.
Non.
Parfois, c'est notre travers. Et il ne faut pas oublier que les Américains...
On est juste réaliste.
Oui, voilà. Il ne faut pas oublier que les Américains étaient très influencés par les Lumières écossaises. Et donc, ils lisaient ces auteurs écossais, parce que les Lumières n'étaient pas qu'en France. Et donc, ils lisaient Voltaire, et, bien sûr, ils lisaient Rousseau, Montesquieu, mais ils lisaient aussi les auteurs écossais. Et autre chose, autre
tu
point important.
Tu penses à qui, par exemple ?
Hume, par exemple. Wallace aussi. Mais, un point très important, c'est que il y avait une incompréhension entre l'élite américaine et l'élite française, en tout cas ceux qui participaient au mouvement des Lumières, vis-à-vis de l'Église, de la religion. Et parce que les philosophes américains, il y a quelques grands auteurs de philosophie politique au XVIIIe, ils incluent toujours la religion et l'Église, ils donnent toujours une place à la religion et l'Église dans leur lumière. En fait. Et donc, pour eux, certains auteurs français étaient excessifs, en fait. L'anticléricalisme de certains auteurs français ne se retrouve pas du tout chez les Américains.
Tu n'as pas évoqué la figure d'Emerson. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une figure constitutive d'une certaine rupture dans la pensée américaine avec l'héritage historique de l'Europe ? Où d'un seul coup, l'Amérique naîtrait d'elle-même, en quelque sorte, hein, construirait son identité à partir de ses capacités, de son lien d'ailleurs avec son espace aussi, sa nature. Est-ce que Emerson, à ce niveau-là, est, à tes yeux, un penseur fondamental, presque même un philosophe politique de la nation américaine ?
Oui, je pense qu'effectivement, Emerson et les Thoreau... Les transcendantalistes jouent un rôle très important, effectivement, au début du XIXe siècle. Ils ne sont pas les seuls à plaider pour l'émancipation culturelle de l'Amérique, en fait, des normes européennes. Le lien avec la nature, certes. Il faudrait aussi ajouter les peintures, ce qu'on appelle l'école de Hudson, dans l'arrière-pays new-yorkais, qui peint des forêts, des falaises, des cascades. Il y a une admiration pour la nature américaine. Mais ce qui limite l'influence d'Emerson, c'est le fait qu'il soit de Nouvelle-Angleterre. Donc c'est quand même une région, une petite région au nord-est. Il n'a pas l'influence dans le sud, par exemple. Mmh. Il en a peu dans l'Ouest. Donc, à son époque, il est très lu par l'élite de Nouvelle-Angleterre, de New York, et puis bon, le Nord-Est, New York, Philadelphie. Mais il est peu lu dans le Sud. Alors, il ressurgit, son influence ressurgit dans les années 1960. Où justement, sa volonté de dépouillement proche de la nature va, et il va être lu par ce qu'on appelait à l'époque les hippies et des gens qui...
Un idéal de l'amour aussi, voilà. Il y a un idéal de l'amour chez lui très fort.
Et tous ceux qui rejettent le consommisme, la consommation, mmh. l'amour de la technologie, tout ça, le retrouvent dans les années 1960, mmh. c'est sûr. Mais c'est quelqu'un qui va être... par exemple, bon, Thoreau, avec sa désobéissance civile, ça va, il va ressurgir dans l'histoire américaine dans les années 1960. Mmh. C'est vrai. Mmh. Quelqu'un comme Howard Zinn, par exemple, moi, je le mettrais dans la lignée de, peut-être pas Emerson, mais Thoreau, certainement. Alors, Emerson, il a beaucoup écrit contre l'esclavage. Mmh. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'était pas lu. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles il n'était pas lu dans le Sud. Quoi. Mmh. Mais c'est un peu... Nous, en France, on étudie beaucoup les transcendantalistes parce qu'on aime leur philosophie, on aime leur littérature, mais aussi parce qu'on a un peu... on étudie toujours prioritairement la Nouvelle-Angleterre, en fait. Mmh. Et sans voir, en fait, qu'il y a d'autres traditions. Alors, il y a quelque chose de très intéressant dans l'opposition entre le Sud et le Nord. C'est l'opposition entre le Mayflower et Pocahontas. Parce qu'au XIXe siècle, il y a eu ce qu'on appelle le New Englandization of America. Ça veut dire que les États-Unis ont été influencés par la Nouvelle-Angleterre. C'est-à-dire que la Nouvelle-Angleterre a fixé ses normes. Thanksgiving, par exemple, est devenu une fête nationale, alors qu'au début, c'est une fête juste dans le Massachusetts. Le Mayflower, les Puritains, sont devenus les ancêtres de tous les Américains. Alors, pour riposter, les Virginiens, qui voulaient aussi montrer que leur État avait joué un rôle fondamental dans la construction des États-Unis, ont choisi Pocahontas comme héroïne, en fait. Et donc, il y a eu des écrits dans les années 1850, 1860, juste avant la guerre de sécession, Pocahontas contre le Mayflower. Et Pocahontas, c'était l'amour de la nature, c'était la beauté, l'union avec le continent. Et alors que les Mayflower, c'était l'Angleterre, en plus c'est une période d'anglophobie, donc c'était l'Angleterre, c'était le rigorisme puritain, c'était le rejet de la wilderness, qui est donc la nature sauvage, que l'on tient éloignée. Donc ces deux mythes qui sont apparus dans les années 1850 et qui étaient hostiles l'un vis-à-vis de l'autre, mais qui représentaient en fait le poids de deux États qui s'étaient vus comme fondateur, c'est très important l'opposition entre la Virginie et le Massachusetts, c'est-à-dire John Adams, c'est le Massachusetts, Jefferson et Washington, c'est la Virginie, etc. Mm. Ça a toujours existé, enfin, jusqu'à la guerre de sécession, il y a vraiment cette rivalité entre ces deux États, mm. qui est très forte. Mm.
D'autres questions ? Bien, écoutez, je vous propose d'arrêter là cette rencontre.
Merci d'être venu.
Merci d'être venu. N'hésitez pas à découvrir ce très bel ouvrage de Bertrand, hein, et à le consulter, à le faire signer aussi. Hein, vous pouvez en profiter puisqu'il est là ce soir. Voilà, la prochaine conférence de la librairie Jean Calvin à Paris, ça sera le 5 octobre. Oui, non, mais il y en a une le 2 octobre, hein, sur la poésie. La poésie protestante, et sinon ça sera le 26 octobre, oui, ça sera à la rue de Nesle, hein, avec l'église Uniprèf, ça sera Bernard Cottret qui viendra nous parler de la question de l'exode, un parallèle entre l'exode huguenot, ou l'exil huguenot, hein, l'exil juif, hein, la contrainte de l'exil, et est-ce que l'exil oblige ces... comment dire, ces peuples, hein, que ce soit les Huguenots ou les Juifs, à retourner à l'écriture avec un E majuscule ou à l'écriture avec un E minuscule. Autrement dit, pour faire simple, est-ce que l'exil ou l'exode oblige à trouver son refuge et une force identitaire dans l'attachement au livre, à la Bible, ou l'attachement au livre en général ? qui permet de faire face à une espèce de dispersion d'identité, que ce soit pour les Juifs ou les Huguenots. Voilà, donc quel est ce rapport entre exil, exode, et attachement aux livres, puisqu'on sait que les protestants sont des, ce sont des gens attachés aux livres, l'intérêt du livre, ainsi de suite, tout comme les Juifs. Livre avec un grand L ou livre avec un petit L minuscule. Voilà, donc ce sera le 26 octobre, on vous donne rendez-vous, n'hésitez pas à vous munir du programme, puis je vous propose de remercier encore Bertrand pour cette belle intervention.
Merci à vous. Monsieur Cotrec était un de mes professeurs.
Une raison de plus pour venir l'écouter. Non. Merci.